93. La radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Poul.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2204. J'espère que vous allez bien. Ah, les auditeurs, vous arrêterez pas de m'impressionner. Sincèrement, ça fait 19 ans que je fais de la radio, 10 ans que j'anime l'avant-match, et à chaque fois que je lance une promo de fou, mes collègues me regardent un peu bizarre, mais ils me connaissent au fil des ans, puis ils savent bien que je lance l'idée, puis finalement, on le fait, puis on a bien du fun. Je vous parle de la tournée des patinoires extérieures. Quand je suis débarqué dans le bureau des filles de la promo, c'est pas pour être sexiste, c'est que c'est des filles qui travaillent à la promo. Fait qu'il faut le dire comme ça. Isabelle et Marie-Pierre, quand je suis débarqué dans leur bureau, il y a 5 ans, puis j'ai dit, on va prendre une journée, puis on va aller jouer au hockey sur les patinoires extérieures. On va aller dans les maisons, dans les familles. Ils m'ont regardé, puis ils ont dit... Là, ils n'osaient pas me dire « T'as-tu roulé un joint ou t'as-tu pris 12 scotch quand tu t'es levé un matin en déjeunant? » Et tu veux vraiment aller voir des auditeurs qui ont des patinoires extérieures puis passer ta journée d'un samedi au mois de février, peut-être à moins 18, à faire ça? Là. Ils m'ont regardé puis ils m'ont comme donné une deuxième chance de me reprendre. Finalement, j'ai dit « Oui, ça m'intéresse. J'aimerais ça qu'on fasse ça. Pensez-vous que ça peut être possible? » Ben, on dit, ouais, on va l'essayer. Hey, boy, t'as pas confiance ben, hein? On va l'essayer. Bon, tu veux faire ça de quelle façon? La première année, faut que je vous raconte la page d'histoire de la tournée des patinoires. La première année, ça a été un mercredi soir, dans le secteur du Berger, par un mercredi de la fin du mois de janvier, complètement glacial, avec du verglas, les voitures stationnées devant la maison de la famille qu'on a visitée. 3 sur 4 sont restés pris dans le banc de neige quand on est ressorti de là. C'était le chaos total. Sauf que, on a tellement eu du fun, on est reparti de là. Hey, le livreur du Saint-Hubert, quand il a livré le poulet pour tout le monde, on a pris une photo, il voulait être dans la photo. Ça vous donne une idée à quel point tout le monde tripait. On joue au hockey en bottes la première année parce qu'il fait tellement mauvais que la patinoire, le monsieur chez qui on est allé, je pense qu'il avait 3-4 enfants, il a bien beau essayer, il a bien beau pas dormir de la nuit pendant 4-5 nuits, ça a fini qu'il n'avait pas de patinoire. On voyait qu'il avait essayé d'en faire une, mais c'était trop raboteux, on a joué en botte. C'est pas grave, on a eu du fun. On est reparti de là. Puis là, j'ai dit aux gens qui étaient là cette année-là, la première année avec moi, je dis là, un mercredi soir, c'est le fun, mais en même temps, c'est plate, on n'a pas le temps de faire le tour ben. L'année prochaine, on fait une journée au complet, un samedi au complet. La deuxième puis troisième année, je pense qu'on a visité 3 familles. L'année dernière, 4 familles. Cette année, 4 familles encore. J'aimerais bien ça en faire 5, 6 ou 7. C'est juste que mon objectif, c'est de vous rencontrer les auditeurs puis jaser avec vous autres. C'est pas d'arriver une demi-heure chez vous et de dire « Ouais, faudrait y aller, hein? Ouais, on checkait l'heure puis on est attendu. » Ben non. Si je fais une tournée de patinoire extérieure, c'est parce que je veux prendre le temps d'abord de jouer au hockey sur votre patinoire et ensuite qu'on prenne le temps de jaser un peu. Voilà pourquoi on s'arrête à 4 familles. Mais ce midi, je vais aller voir Isabelle dans le bureau de la promo, puis elle m'a sorti les candidatures, et je reviens à mon point de départ. C'est pour ça que les auditeurs vont m'impressionner autant. Il n'a pas fait beau des derniers jours, là. Samedi dernier, il faisait plus 4. Le lendemain, c'était la tempête de neige. Ça n'a pas dû être évident cette année, tenir à bout de bras une patinoire extérieure pour que nos enfants s'amusent. Mais j'ai une vingtaine de candidatures déjà de reçues, et je suis sincèrement impressionné. Je ne sais pas comment on va faire le choix de visiter seulement 4 familles parmi toutes ces familles-là. On pourrait, je pense, les visiter les 20. Je pense qu'on a 18 de rentrée à date. Donc voilà, c'est mon invitation pour le début de l'émission de ce soir. Évidemment qu'on va parler de football dans quelques instants avec le collègue Will, comme on le fait chaque semaine, des fois 2 fois par semaine. Ah, certaines fois, on a fait 3 fois par semaine. Will a tout le temps le tour de nous sortir une histoire, hein? On fait une chronique le lundi, puis une chronique le vendredi. Puis là, le mercredi matin, il me texte, il dit, Dan, grosse affaire. Qu'est-ce que tu dirais qu'à soir, on ferait un petit 5-6 minutes encore sur la NFL? Je pense que Tom Brady puis Bill Belichick, pas trop sûr s'ils vont revenir l'année prochaine. Résultat, 3 fois dans la semaine, la NFL. Ah ouais, donc, on est parti. Mais c'est correct, c'est les finales de conférence. C'est avec un bonheur qu'on va recevoir également Dan Fleury, qui est un ancien du Rouge et Or. Un des meilleurs joueurs de l'histoire du Rouge et Or. Pour les plus jeunes qui ne l'ont pas vu jouer, il était bon en tabarouette et il s'occupe maintenant des clubs sportifs à l'Académie Saint-Louis. Le temps de vous dire que la façon de vous inscrire pour ma promo des patinoires extérieures... Ah, puis faut que je... Ouais, c'est pas juste une promo de patinoires extérieures. Hein. C'est aussi des partenaires qui, au fil des ans, se sont joints à moi. Je pense à l'entrepôt du hockey, à Quesada cette année, qui va fournir le repas à toutes les familles qu'on va visiter. Et à Luc Santerre, mon chum, qui est directeur des ventes chez Labatt. Les gens de Budweiser, un gros merci pour votre support. Mon chum Houdini embarque dans l'auto avec moi, fait des tours de magie après chaque match où on visite les familles. Donc, inscrivez-vous sur la page Facebook du FM 93 ou encore envoyez un courriel, c'est encore plus simple. Concours avec un S à commercial, fm93.com. Les gens de la promo vont me faire part de votre mise en candidature, puis on va analyser ça dans les prochaines semaines. C'est un gros week-end dans le monde du sport. Évidemment, les finales de conférences vont retenir l'attention. Ils reviennent dans quelques instants. Et plus tard, dans l'émission, je vais m'entretenir avec Will Lalonde, comme je le fais quelques fois par année. Mais on lance ce soir une nouvelle collaboration, et j'en suis très fier. Chaque vendredi, je vais parler avec Ray, un expert sport et business, un gars qui a un parcours fascinant, un gars qui a travaillé pour la NBA, qui est allé aux États-Unis, qui a fait toutes sortes de jobs dans sa vie qui l'ont mené à acquérir une notoriété comme il a actuellement. On lui jase vers 18h25, 18h30 ce soir et à chaque vendredi à compter d'aujourd'hui, on va pouvoir avoir recours à ses services et à sa compétence.
Are you ready for some football? Le football de la NFL avec William Boivin.
Salut Will, comment vas-tu?
Ça va très bien, mon Dan, toi-même.
Oui, merci, oui. Merci d'être là en studio avec moi. Se joint à la discussion, Will, d'un commun accord. Les deux, on s'est entendu cette semaine pour appeler Dan Fleury, qui est un ancien joueur de football du Rouge et Or, un gars qui trippe sur la NFL également. J'ai joué dans des ligues de garage avec lui dans les dernières années et régulièrement, on parlait de football ensemble avant ou après les matchs. Un peu plus après, parce qu'à l'heure où j'arrive au match, il n'y a pas un gros délai avant que le match commence. Fait qu'il n'y avait pas un gros social avant le match, mais après le match, ça nous est arrivé souvent de jaser de football. On le joint à l'instant au téléphone. Il est en charge maintenant des équipes sportives à l'Académie Saint-Louis. Salut Dan.
Salut Dan.
Bonsoir William. Bonsoir Dan.
Comment ça va?
Ça va super bien, vous autres?
Ça va bien. Je sens, évidemment, je ne suis pas un tripeux de foot comme vous. Je ne suis pas un expert comme toi et Will. Mais je sens dans le visage de Will, qui est en studio avec moi, un genre d'excitation. Le visage d'un gars qui sait que dans moins de 48 heures, il va pouvoir regarder deux très bons matchs de football. Est-ce que si tu étais avec nous en studio, on verrait le même sourire dans ton visage, Dan?
Je pense que oui, sérieusement. Écoute, je regarde ça vraiment, la NFL, d'un œil d'un fan. Là, pas d'un coach ou pas d'un ancien joueur. Là, vraiment un fan. J'ai suivi un petit peu plus cette année, peut-être même que d'autres années. Il y a eu des beaux upsets là, jusqu'à présent dans les séries, ce qui fait que la NFL est tellement une belle ligue puis elle est tellement en santé. C'est très excitant.
OK. Will, je débute avec toi. Évidemment, à tour de rôle, vous allez me donner vos impressions sur les deux matchs du week-end. Est-ce que on a sous-estimé dans les deux matchs contre les Pats et la semaine dernière contre les Ravens, est-ce qu'on a sous-estimé dès le départ les Titans?
Ben oui, absolument. On n'a pas pris les Titans au sérieux. Okay. Suffisamment, en plus de ça, ils nous l'ont remis d'en face en battant quand même à plat de couture les Ravens de Baltimore qui avaient dominé la saison régulière cette année. Les Titans, mais c'est l'équipe faite sur mesure pour gagner en série éliminatoire. C'est du old school football. Basic, pas très spectaculaire, mais très efficace. Un bon jeu au sol, on passe à peu près jamais le ballon. On y va avec nos gros porteurs de ballon en tête Derrick Henry. Et on fait confiance à notre défensive. On applique beaucoup de pression sur le carrière. Alors, la bonne vieille recette, Dan, pour avoir du succès dans la NFL, c'est-à-dire un bon jeu au sol et un gros front défensif. Comme je te dis, c'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Et les Chiefs, s'ils ne prennent pas au sérieux les Titans, pour avoir une grande surprise, parce que, vraiment, je pense que les Titans sont l'équipe faite sur mesure pour battre les Chiefs également. Okay. C'est-à-dire d'arrêter le jeu de passe, d'appliquer beaucoup de pression sur Patrick Mahomes. La ligne offensive des Chiefs avec Laurent Duvernay-Tardif vont avoir un gros boulot à faire parce que va falloir protéger notre carrière pour que lui ait le temps de lancer le ballon, de trouver les Tyreek Hill, Travis Kelce et compagnie. Mais je me méfie des Titans. Je me méfie des Titans, puis là, il faut les prendre au sérieux.
OK, si je comprends bien ce que Will m'explique, Dan, si le match commence 24-0 comme la semaine dernière, cette fois-ci, Kansas City ne remontera pas.
C'est impossible parce que de toute façon, les Titans vont contrôler le chronomètre à cause justement de leur jeu au sol. Puis Derrick Henry, là, le porteur de ballon de format géant, là, 250 livres, qui court presque aussi vite que les demi-défensifs. C'est sûr que s'ils partent de l'arrière, ils pourront jamais revenir comme ils l'ont fait la semaine dernière.
OK, tantôt tu disais, Dan, tu es un ancien joueur du OGR, mais tu disais tantôt, au lieu de regarder ça comme un coach ou comme un expert, moi je regarde ça comme fan, comme partisan à la NFL. Donc, dimanche, je suppose, et tu me diras si je me trompe, qu'en regardant l'affrontement entre les Titans et les Chiefs, tu vas porter une attention particulière au travail de Laurent Duvernay-Tardy?
C'est sûr que oui, puis à chaque fois, j'essaie de le regarder, de le suivre. Écoute, là, environ 2 ans et demi, il est venu faire une conférence pour nos jeunes ici à Québec, puis là, on le retrouve là à une victoire de participer au Super Bowl. C'est incroyable, puis c'est certain qu'on le regarde plus que les autres, puis il fait vraiment un job fabuleux. Là. Il est bon, il est pas juste costaud, il est vite à part ça, puis il est très intelligent. On sait bien, il a fait sa médecine en plus de jouer dans la ligue, une des ligues les plus exigeantes au monde. Fait que il est beau à voir aller, puis c'est certain que je vais avoir une attention particulière sur lui.
Dan, quand les jeunes carrières de tes équipes de football, quand tu as des discussions avec eux, évidemment, les vieux comme moi de 49 ans, on a vu l'entièreté de la carrière de Tom Brady. Les plus jeunes qui ont 12, 13, 14, et ils n'ont pas vu Tom Brady au complet. Là. Est-ce que ces jeunes-là te parlent particulièrement de Patrick Mahomes depuis l'année dernière?
Oui, ça parle de Mahomes, de Watson, puis de Jackson. T'sais, c'est okay. Vraiment les trois là, qu'on okay. entend parler. C'est la relève de la NFL. C'est ceux qui sont très, très, très efficaces. Est-ce que la formule Jackson, il est vraiment pas bon en série, puis c'est juste un gars de saison, ou c'est plus, circonstanciel, le fait que ça fait 2 années d'affilée là, qui choke un peu là, dans les playoffs? Je sais pas, mais c'est les trois gars qu'on entend le plus parler.
OK. Will, l'affrontement entre les Titans et les Chiefs, tantôt, tu nous as bien parlé des Titans. Parlons des Chiefs maintenant. Dans quelle mesure le fait de jouer à domicile dimanche, ça va les aider?
C'est un énorme avantage, surtout en série éliminatoire, parce que, premièrement, puis je t'en ai parlé tantôt de la pression que les Titans vont octroyer sur la ligne offensive des Chiefs. On va essayer de déranger Mahomes. Alors, c'est important pour les 5 gros bonhommes, dont fait partie Laurent, c'est le garde droit, de bien communiquer ensemble. De bien se regarder dans les yeux, bien communiquer, pour venir voir le blitz du 54 qui va arriver dans le centre, pour venir voir le blitz du maraudeur qui va s'approcher de la boîte défensive pour par la suite venir apporter de la pression dans le champ arrière. Donc, c'est important de bien communiquer entre les 5 gros bonhommes et des fois un ailier rapproché qui vient en bloc ou un autre porteur de ballon. Puis, à l'étranger, quand la foule a crié, puis tout ça, puis t'es à l'étranger, puis ça brasse, ben c'est plus difficile de communiquer ensemble. Fait que je pense que c'est un énorme avantage, entre autres pour les Chiefs offensivement. Puis même la semaine dernière, quand c'était 24-0 pour les Texans, ils m'ont surpris, les fans des Chiefs. Ils n'ont pas lâché, ils continuaient à crier. Ils avaient confiance en leur équipe. C'est un des stades les plus bruyants de la NFL. Ils ont même passé au niveau des décibels le stade des Seahawks, il y a quelques années. Et puis, même si c'est un stade ouvert extérieur, il y a beaucoup d'ambiance là-dedans. Donc, je pense qu'en offensive, ça va vraiment aider les gars de pouvoir communiquer ensemble. Puis ça va donner une dose d'énergie à la défensive d'avoir toute cette foule-là crier lorsque va être venu le moment d'un deuxième, troisième essai.
Dan, je reviens à Pat Mahomes. Il a l'air d'un ado qui n'est pas trop conscient de la pression qui peut l'habiter avant un match aussi important que celui de dimanche. Est-ce que tu as l'impression que en dedans de lui, il est nerveux, mais il laisse croire qu'il ne l'est pas?
Probablement. Probablement. C'est un compétiteur féroce. Puis je suis certain qu'il est nerveux, puis il doit sentir la pression un petit peu, pas tant sur lui, mais veut pas son entraîneur-chef qui a très peu de succès dans les séries. Puis comme équipe aussi, là, je me souviens plus de la date exacte la dernière fois que les Chiefs ont été au Super Bowl, mais ça fait très longtemps. Puis il doit la sentir, cette pression-là, mais je pense qu'il fait une bonne job là, de l'utiliser à son avantage. Puis William a raison quand il dit que ça va être un avantage d'être à la maison pour communiquer, parce qu'ils vont pouvoir parler quand ils vont être à l'offensive, ce qui ne sera pas le cas du tout des Titans. Là, ils pourront rien dire, ils s'entendront pas. Donc ça va prendre des signes là, pour se parler un petit peu, pour essayer d'avoir des jeux qui vont se tenir debout. Mais la seule chose qui peut les avantager à ce moment-là, les Titans, c'est qu'ils n'ont aucune pression d'une certaine façon, parce que tout le monde s'attend à ce qu'ils perdent. C'est la seule chose pour moi là, qui peut être dangereux un peu pour les Chiefs là, avec les Titans.
OK. Est-ce que moi, quand je regarde un match, je sais pas vous, les gars, vous êtes plus familiers avec le sport du football que moi, mais quand je regarde un match, j'ai toujours peur, peu importe le joueur, peu importe l'équipe, peu importe la situation, j'ai toujours peur quand le gars court, l'autre équipe, évidemment, en essayant de le mettre en échec ou de le rabattre au sol, tente de lui faire échapper le ballon. J'ai toujours peur qu'un revirement ou deux viennent complètement changer l'issue d'un match. Pourtant, ça fait partie de la game. Will, est-ce que je m'en fais trop avec les fameux revirements?
Non, tu t'en fais pas trop, parce que c'est tellement important, puis surtout dans les matchs d'éliminatoire, c'est serré, le jeu, on différencie les équipes en si peu de choses. Si tu gagnes, admettons, un aspect, très négligé comme les unités spéciales, tu te donnes de très bonnes chances de l'emporter en éliminatoire. Puis souvent, un match de football, il y a une centaine de jeux en offensive, en défensive, les unités spéciales, mais quand on décortique le match après, ça s'est joué sur 2-3 séquences. Les Ravens, entre autres, ce qu'ils ont coulé la semaine dernière, c'est les revirements. Fait que, c'est sûr, Dan. Puis les joueurs défensifs, je sais pas, Dan, si t'as la même impression que moi, mais dans les dernières années, de plus en plus, les joueurs défensifs, on va pas tenter de plaquer le gars immédiatement. On va tenter de donner un coup de poing sur le ballon, de provoquer un revirement, peut-être accorder 2-3 verges supplémentaires, mais pouvoir tenter de se donner une bonne chance de créer un revirement. Ouais. C'est très important. Surtout en éliminatoire, quand tu causes un revirement, ça finit par te rattraper dans le match.
Dan, t'as joué au football. C'est important quand on pourchasse un joueur d'essayer de lui faire perdre le ballon. C'est des techniques que vous pratiquez?
Oui, certainement. C'est ce qu'on veut. Puis surtout dans certaines situations où, tu sais, c'est sûr que dans un troisième essai et deux verges à franchir, c'est pas quelque chose qui va arriver. Mais par contre, si un receveur rattrape la balle, il a déjà gagné le premier jeu puis il est en train de courir, c'est là que ça devient moins important, puis tu peux y accorder 2-3 verges de plus, mais prendre une chance d'essayer de faire échapper le ballon. Puis comme Will le disait, c'est la bagarre des turnovers souvent va être déterminant dans le match. Donc celui qui va avoir eu le plus de revirements de son côté va remporter la partie, puis en playoff, c'est encore plus vrai.
OK, l'autre match maintenant, Dan, parle-moi des Packers et des Niners. Garoppolo d'un côté, l'ancien des Pats, une transaction controversée de mémoire contre un choix de deuxième ronde. Et Aaron Rodgers, l'autre côté pour les Packers, une équipe aguerrie. Est-ce que c'est la dernière chance d'Aaron Rodgers de jouer au Super Bowl?
Écoute, si c'est pas la dernière, ça sera pas loin, parce que honnêtement, j'ai vu un petit peu les Packers cette année, puis je trouve qu'ils sont chanceux de se retrouver là. Je trouve pas que c'est une des quatre meilleures équipes de la Ligue cette année.
OK.
Je trouve pas que c'est une équipe qui est complète. Par contre, c'est gagé contre Aaron Rodgers, ben ça, c'est pas toujours une bonne idée. Je pense quand même que le upset pour eux va être beaucoup plus difficile à réaliser que pour les Titans, ça le serait. San Francisco, pour moi, est une équipe vraiment complète. Là, ils sont vraiment défensivement, sont intenses. Ils ont planté Packers quand ils ont affronté cette année. Puis, tu sais, Rodgers, il n'a pas eu le temps du tout de lancer. Il n'a pas eu le temps d'étirer les jeux là, comme il le fait avec ses jambes. Tu sais, c'est pas un grand coureur. Par contre, il est très bon pour allonger des jeux puis compléter des passes là, en courant par en arrière. Là. Il est incroyable, mais il n'a pas pu faire ça contre San Francisco. La D-line, les joueurs de ligne défensive étaient trop rapides, étaient trop intenses. Fait que j'y crois plus ou moins, là, je te dirais. Puis, c'est une équipe qui a gagné beaucoup de matchs par un, par deux, par trois, là. Dans toute l'année. Là, je lisais aujourd'hui là, qu'il avait battu Détroit deux fois, mais les deux fois sur le dernier jeu du match. C'est okay. Détroit qui n'est pas un grand club de foot non plus. Fait que pour moi, c'est le club qui est le plus chanceux d'être dans les quatre derniers. Là, c'est Green Bay. Mais c'est ça, c'est la NFL, c'est un match.
Ouais.
Puis gager contre Aaron Rodgers, ben, c'est pas toujours facile.
Non, c'est ça. Will, j'ai vu par ton signe de tête que tu étais d'accord avec ce que Dan racontait au sujet des Packers, qui ne sont pas dans les quatre meilleures formations de la NFL en date d'aujourd'hui. Mais j'ai une question pour toi, par contre. Tu nous as vanté les Niners dans les dernières semaines. Tu nous as dit à quel point c'était l'équipe la plus complète. je reprends une expression qu'on a eue ensemble en cours de saison, où on s'est dit, les Browns, ça va aller un peu mieux, parce que c'est ton club préféré pour les auditeurs qui ne le savaient pas. S'il en reste 3-4,
garde ça,
ils ne le savaient pas. Non, c'est public. C'est correct, juste une mauvaise année pour eux. Tu m'avais dit, il faut qu'ils apprennent à gagner. En série, la semaine dernière, je t'ai dit, est-ce que les Ravens doivent apprendre à gagner? Je prends ce questionnement-là puis je le transpose aux 49ers de San Francisco.
Ah, c'est une bonne question, mais les Niners, on a quand même un bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs qui sont en train vraiment de s'établir dans la NFL. Je pense entre autres à George Kittle et Nick Bosa. Mais moi, j'aime beaucoup les Niners parce qu'on déborde de confiance. On a confiance en nos moyens. On est bien entraîné par Kyle Shanahan, qui a un bon système offensif. Et puis, on est capable de gagner de toutes sortes de façons, Dan. Comme ce que j'ai peur pour revenir brièvement au match des Chiefs, c'est si les Titans sont capables d'arrêter la passe et qu'on est capable de contrer Mahomes, je vois pas les Chiefs trouver une nouvelle façon de gagner le match. Tandis que les Niners, si notre jeu de passe fonctionne pas, on va y aller au sol. Si notre attaque terrestre ne fonctionne pas, on va y aller avec le jeu de passe. On est capable de jouer de toutes sortes de façons, de s'ajuster avec ce que l'autre équipe nous présente comme plan de match. Et puis, moi, surtout, ce que je donne avantage aux 49ers, c'est surtout leur défensive. Parce que les 4 joueurs de ligne défensive, c'est la meilleure de la NFL. Et juste à 4 joueurs, on est capable d'apporter beaucoup de pression dans le champ arrière. Et là, ça nous laisse 7 joueurs en couverture de passe. On n'est pas obligé de blitzer à profusion pour mettre de la pression sur le corps arrière. Fait qu'Aaron Rodgers, faut jamais gager contre lui, surtout dans de telles circonstances. Il joue contre son équipe d'enfance. C'est un gars de la Californie. Les 49ers l'ont boudé au repêchage de 2005. Il l'a encore sur le cœur. Fait que j'ai l'impression qu'il va vouloir un peu le remettre d'en face des 49ers. Okay. Mais s'il y a 2 secondes d'écart pour lancer le ballon, c'est à peu près impossible qu'il va pouvoir trouver son receveur Devontae Adams sur le terrain. Alors, les Niners, oui, doivent apprendre à gagner. Ils ont de bons jeunes joueurs, mais sont capables de s'ajuster, de gagner de toutes sortes de façons.
OK. Dan, les Niners ont déjà gagné, mais on s'entend que dans le match de dimanche, ni Montana, ni Steve Young, ni Jerry Rice vont jouer pour les Niners. C'est une autre génération. Est-ce que c'est important pour ces jeunes-là de porter un uniforme qui a déjà eu une tradition de gagnant?
Je pense que oui. Puis d'après moi, les anciens, justement, les noms que tu as nommés tout à l'heure, puis tu sais, j'ajouterais à ça les quelques autres, là, les Steve Young de ce monde, les Dallas Clark, les Tom Ratman, j'espère que ces anciens-là vont faire quelques visites cette semaine au complexe à Santa Clara, puis ils vont aller parler aux gars, vont aller juste se montrer un petit peu, puis je ne sais pas, laisser transparaître cette tradition d'excellence qu'ils ont eue pendant au moins une décennie, là, qui ont été la meilleure équipe de la NFL. Fait que j'espère qu'ils vont être capables de les aider un petit peu de ce côté-là pour leur passer le flambeau. Puis tu sais, George Kittle, comme jeune, là, c'est extraordinaire de voir aller. La même chose pour Bosa. Fait que c'est une équipe qui risque d'être bonne pendant longtemps aussi. Là, Garoppolo est pas très vieux. Fait que ça va être le fun, là. Ça va être intéressant les prochaines années, là, au-delà de cette année.
Pis souvent, Dan, on dit que le point faible des 49ers, c'est leur carrière, Jimmy Garoppolo. Mais c'est sûr que si tu me demandes qui choisis-tu entre Rodgers et Garoppolo, on s'entend que la réponse va être assez courte. Ça va être Rodgers. Même chose que si on le compare à Mahomes. Mais ce gars-là a quand même 21 victoires, 5 défaites à titre de carrière partant des 49ers depuis 2 ans. Fait que lui, il a peut-être pas des statistiques très impressionnantes, mais il gagne des matchs de foot et surtout, il est bien entouré.
Est-ce qu'à Foxborough, dimanche, on va souhaiter une victoire des Packers pour que la transaction paraisse un peu mieux?
Je pense que oui. Puis surtout, c'est en train de faire mal paraître les Pats qui ont pas donné Garoppolo, mais on aurait pu le monnayer beaucoup plus cher qu'un choix de deuxième ronde. On s'est débarrassé de lui rapidement. Je dis débarrassé parce que ça a été une demande de Tom Brady qui est allé voir M. Kraft parce qu'il aimait pas beaucoup ça être poussé dans le derrière par le genou Garoppolo qu'on a repêché en deuxième ronde à l'époque du côté des Pats. Alors, ouais, c'est sûr que s'il remporte un Super Bowl, voyant les Pats sur la pente descendante, on va l'avaler de travers. J'ai l'impression.
Dan, si on y va en prédiction pour les deux matchs, tout le monde a l'air de s'entendre qu'on va avoir un Super Bowl très rouge entre Kansas City et San Francisco. Est-ce que dans un des deux matchs, tu vois un écart plus grand ou peut-être un match où il va se marquer plus de points?
Alors, je pense que San Francisco puis Green Bay va se marquer plus de points, malgré que Kansas City, même s'ils ont une offensive explosive, je pense qu'ils sont... Ils sont plutôt unidimensionnels, puis l'équipe la mieux coachée présentement de mode des playoffs, c'est les Titans, par Mike Vrabel, qui est probablement le vrai disciple de Bill Belichick, là, celui qui semble avoir le plus appris, du moins, puis qui applique le plus ses techniques. Donc, c'est pour moi, ça va être le match San Francisco-Green Bay qui va se marquer le plus de points quand même.
Will, t'es d'accord avec ce que Dan Fleury vient de dire, puis est-ce que t'es d'avis qu'on va avoir un Super Bowl très rouge?
Oui. Okay. Il n'y aura pas de surprise en fin de semaine, okay. J'ai l'impression. Okay. J'ai un peu plus peur dans le match entre les Packers et les Niners. Je pense vraiment que les Packers et Rodgers pourraient sortir un énorme match pour battre les 49ers. Puis il faut pas prendre à la légère les Titans. On en a parlé en début de segment, mais je pense que les Chiefs ont tout ce qu'il faut pour aller au Super Bowl. Pour moi, il n'y a pas de surprise ce week-end. Les 49ers et les Chiefs, les deux équipes à la maison, vont gagner.
Oui, un gros merci, Dan Fleury, ancien joueur du Rouge et Or et maintenant responsable des équipes sportives à l'Académie Saint-Louis. Un gros merci de ta participation.
Merci, Dan.
Merci beaucoup à vous. Bonne soirée puis bon match en fin de semaine.
Salut bien. Les finales de conférence, merci à vous deux. Les finales de conférence, ça débute à 15h dimanche avec l'affrontement Tennessee-Kansas City. Je vous rappelle que les Titans, c'est la seule équipe toujours en lice dans les quatre restantes qui n'a jamais remporté le Super Bowl. Tout comme 11 autres formations de la NFL, Arizona, Caroline, Détroit, Atlanta, Cincinnati, Houston, les Chargers, Buffalo, Jacksonville, Minnesota, et j'ai gardé pour la fin, évidemment, les Browns de Cleveland, de l'ami Will.
L'avant-match.
De retour après la pause.
Le grand décompte des modèles 2019 se poursuit chez Mazda Châtel. Mazda 3 2019, 22 en inventaire. CX-5 2019, 27 unités en inventaire. Mazda CX-3 2019, 16 unités. Mazda 3 Sport 2019, 5 véhicules en inventaire. Mazda Châtel au centre de la capitale, sortie Pierre-Bertrand, secteur du Marais.
Maison Adam.
Vivez pleinement les grands événements du sport, du cinéma et de la musique grâce à Maison Adam. José vous offre l'ensemble Cinéma Maison 5.1 de Yamaha et Paradigm à seulement 999 $ avec 200 $ de rabais et vous avez jusqu'à 36 mois sans intérêt pour payer. Pour les meilleurs conseils, passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier et consultez les choix de José sur maisonadam.ca.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Vous l'attendiez. La vente qui vous offre les plus bas prix de l'année sur tous les matelas. La vente annuelle de Matelas Dauphin. Obtenez 50 % de rabais plus taxes payées sur tous les formats de matelas ergopédiques à ressort en sachet, garantie 20 ans. Dont le format double, en spécial à 799 $ taxes payées. De plus, recevez 100 $ en carte cadeau. Ces offres et beaucoup plus pendant la grande vente annuelle dans tous les Matelas Dauphin. Matelas Dauphin. La force du fabricant.
Vous grelottez? C'est une très bonne chose.
Comment?
Parce qu'en ce moment, c'est le rabais météo d'EnviroConfort. Plus il fait froid, plus on économise sur l'achat d'une thermopompe. En janvier, c'est 15 %, en février, 10 % et en mars, 5 %. Tous les détails sur EnviroConfort.com.
En janvier, c'est le meilleur temps de l'année pour s'équiper face à l'hiver chez la Tulipe. Dans les deux magasins, on annonce jusqu'à moins 50 % de réduction. Pour un manteau en duvet dans les grandes marques, des bottes, des habits de motoneige ou des raquettes, c'est le temps. L'inventaire est encore beau et on a encore toutes les couleurs et grandeurs. Venez faire un tour rue Saint-Vallier, au Carrefour Saint-Romuald ou en ligne à latulipe.com pour le constater. Jusqu'à moins 50 % en janvier? Pourquoi se faire geler quand on peut s'habiller bien au chaud chez la Tulipe?
Faites vite! Le grand solde de janvier bat son plein chez Sport Expert et Atmosphère. Obtenez de 20 à 50 % de rabais sur les manteaux et pantalons d'hiver pour adultes sur notre prix étiqueté, détail en magasin.
Vous songez à acheter une maison? AlexandreWallet.com.
Avant de visiter, AlexandreWallet.com.
Avec les nouvelles règles hypothécaires en vigueur, il est primordial d'être bien conseillé. AlexandreWallet.com vous explique en détail le nouveau programme gouvernemental pour la mise de fonds. Achat zéro comptant, remise en argent.
Il négocie votre achat. Vous obtient le plus bas taux d'intérêt et paye votre notaire.
Avant de visiter, soyez bien informé. AlexandreWallet.com.
Il s'occupe de tout et paye votre notaire.
AlexandreWallet.com.
Vous avez besoin de pièces pour votre voiture? Pièces d'auto économiques vous offre toutes les grandes marques nationales au meilleur prix. Pourquoi payer trop cher ailleurs? Pièces d'auto économiques, c'est maintenant 5 magasins, dont un tout nouveau à Saint-Georges et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
À Québec, les tribus de sport ont le bon réflexe. L'avant-match. FM 93. Ça me parle.
Sport et business. Avec Ray Lalonde.
Ceux qui écoutent mon émission depuis quelques années savent très bien à quel point j'ai un bonheur renouvelé de pouvoir parler avec l'expert sport et business Ray Lalonde, qui a un parcours professionnel, ma foi, fascinant, avec des expériences tant à l'Université Penn State que dans la NBA également et avec le Canadien de Montréal. Mais on vous informe, que, ben, en fait, je vous rappelle, parce que je l'ai dit en début d'émission, qu'à compter de ce soir, ce sera une chronique hebdomadaire. Pas toujours le vendredi, mais on va essayer de se fixer le vendredi comme rendez-vous pour parler avec Ray. Salut Ray!
Salut Dan, comment vas-tu?
Très bien, très bien. Très content qu'on en soit venu à cette nouvelle collaboration. Et c'est pas l'action qui manque dans le domaine sport, business et marketing cette semaine. Débutons notre chronique de ce soir avec ce scandale qui éclabousse le baseball majeur, les Astros de Houston. Aujourd'hui, encore du nouveau dans l'histoire avec l'information qui sort à l'effet que les joueurs des Astros avaient de l'équipement technologique et électronique sous leur chemise de joueurs. Ça va finir où, Ray, ce scandale-là?
Bien, si on regarde un peu là, l'historique des Astros, là, on parle de la saison 2017,
oui,
où ils ont gagné la Série mondiale en fin de saison. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un des adjoints à l'entraîneur-chef, Alex Cora. On le connaît, puis on est familier avec son nom, parce qu'ensuite, il est devenu gérant des Red Sox.
Ouais.
Et eux aussi ont gagné la Série mondiale.
Ouais, c'est ça.
Alors, Alex Cora, là, au moment où il était avec les Astros en 2017, a concocté une espèce de stratagème entre les gens des opérations baseball dans le studio, dans le stade local des Astros, pour dépister à la télédiffusion les signaux du receveur de l'équipe adverse, de façon à savoir un peu à l'avance si on est capable d'anticiper les lancers. Bon, comme vous connaissez le baseball un peu, c'est pas un secret, ça, l'intrigue autour des signaux dans le baseball. Quand on était jeune puis on jouait au baseball mineur, on cachait les signaux, on voulait pas que l'équipe adverse sache qu'on était à la veille de faire un coup retenu ou on était à la veille de voler le deuxième but et ainsi de suite. Tandis que le receveur, lui, ben, il parlait via les signaux entre le gérant au banc et le lanceur au monticule. Alors, ça a toujours été partie prenante du baseball. Sauf que, à part de tenter de déchiffrer ça à l'œil, de façon humaine, il n'y avait pas vraiment eu d'implication technologique sophistiquée jusqu'à l'arrivée des Astros en 2017. Où là, il y a eu un système qui est parti d'une diffusion télé, puis qui est devenu comme « installons nos propres caméras, trouvons une façon de connecter le message une fois qu'il a été déchiffré jusqu'au banc des joueurs, ou le « dugout » si on veut », et rapidement au frappeur pour que le frappeur puisse anticiper avec la demi-seconde à peu près qu'il y a avant que la balle se rende au membre, si c'est une balle rapide ou une balle à effet. Et ça change tout, ça. Parce qu'une fois que tu sais ce qui s'en vient, évidemment que tes chances de frapper la balle en lieu sûr augmentent. Alors, on s'en va à la fin de la saison 2017, Dan, et les Astros ont vaincu coup sur coup les Red Sox, les Yankees et les Dodgers. Pas les trois petites équipes du baseball, les trois légendes mythiques du baseball majeur.
Ouais.
Et ils l'ont fait en frappant tellement mieux à domicile qu'à l'extérieur. Et ça a été la différence pour plusieurs joueurs, dont deux qui ont été mentionnés dans les derniers jours, José Altuve et Alex Bregman. Mais entre-temps, depuis le rapport déposé par le commissaire lundi, trois gérants d'équipe ont été congédiés.
Oui.
Celui des Astros, celui des Red Sox, Alex Cora, qui était l'instigateur, et celui des Mets, Carlos Beltran, qui n'a même pas commencé à diriger un match parce qu'il était nommé en novembre. C'est 10% du baseball majeur. Et le dossier n'est pas terminé. L'enquête se poursuit. Parce que là, on est en train de savoir que d'autres anciens joueurs auraient dénoncé les tactiques des Astros. Alors, quand on parle de sport, là, Dan, on sait que c'est important de gagner, puis on sait que tout est dans la victoire au niveau professionnel parce que les gens gardent leur job puis les gens font des centaines de millions de dollars. Il y a des milliards de dollars d'impliqués dans l'enjeu de la victoire. Mais est-ce que ça vaut la peine de perdre un peu ton compas là, et tes valeurs morales et l'intégrité que tu viens de sacrifier dans les yeux des consommateurs, des fans de baseball, des partisans partout? Parce que là honnêtement, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut croire que le baseball est intègre. Parce qu'on avait un système de tricherie sophistiqué où la technologie a pris les devants, Dan, sur, mettons, les moyens de se défendre. Et ça, c'est triste pour le baseball. Et c'est pas fini. Moi, je considérerais sérieusement, si j'étais Rob Manfred, enlever le championnat aux Astros, mettre un astérisque. Tu peux pas le donner aux Dodgers,
non,
ils ont pas gagné.
On peut pas le donner, non.
Non, mais tu pourrais l'enlever, par exemple, oui, parce qu'ils l'ont pas gagné de façon honnête. Et surtout, je regarde José Altuve, que je trouvais toujours comme un joueur impressionnant, là, mais je réalise que sa moyenne, c'est quasiment 100 points de plus à domicile plutôt qu'à l'extérieur.
Oui.
Ben, lui était une partie intégrante de la tricherie. Vous pouvez le voir sur YouTube à deux, trois endroits différents. Un, il resserre son chandail à deux mains. Il y en a un autre qui a un close-up, un focus sur son épaule puis un appareil qui semble être caché en dessous. Mais surtout, quand ils ont gagné le championnat en 2017, au lieu de célébrer sur le terrain, il y a une vidéo sur YouTube qui va vous montrer Altuve courir directement dans le vestiaire, enlever son chandail et revenir célébrer avec ses coéquipiers par la suite avec un T-shirt de champion. C'est absolument épouvantable ce qui arrive au baseball.
Est-ce que c'est le plus gros œil au beurre noir de l'histoire du baseball?
Oui. Hey, écoute, Dan, Pete Rose, c'est des peccadilles. Le fait d'avoir parié sur le baseball en tant que gérant des Reds dans les années 90, honnêtement, puis lui, il est banni à vie, puis on ne peut pas le prendre au temple de la renommée. C'est lui qui a le plus grand nombre de coups sûrs dans l'histoire du baseball. Dieu sait que c'est un joueur du temple de la renommée. Et on continue de le bannir. C'est vrai qu'à l'époque, c'était interdit. Mais aujourd'hui, on parie sur les matchs de baseball et de basketball et de hockey partout. C'est permis parce que c'est une business commerciale. Alors, Pete Rose, il n'a pas affecté le résultat d'un championnat et il n'a pas pris avantage pour les Reds. Mais ce que les Astros ont fait, c'est qu'ils ont triché pour se donner un avantage compétitif. C'est inacceptable. Le plus gros scandale du baseball et c'est pas terminé.
Tu vas être d'accord avec moi que maintenant, il n'y a personne qui peut arrêter de douter. On va se mettre à douter de tout.
Et voilà.
Dans quelle mesure le championnat 2018 des Red Sox, étant donné que c'était Alex Cora qui était le gérant, dans quelle mesure on peut douter de ça? Et dans quelle mesure on peut penser que Cora a essayé le même genre de stratagème à Boston qu'il avait fait à Houston l'année précédente?
Et Dan, je suis obligé d'être d'accord avec toi à 100% parce qu'Alex Cora, honnêtement, je peux pas imaginer le jour qu'il va retourner gérer dans le baseball majeur. J'ai de la difficulté à imaginer à José Altuve avoir une carrière dans le baseball après la saison dernière parce que je pense qu'il va être banni à vie. Et je crois aussi que les Astros, on va leur enlever le titre, ce qui va être la plus grande pénalité de l'histoire du sport. Ce qui est clair, c'est qu'à mon avis, l'enquête se poursuivra maintenant du côté des Red Sox.
OK.
Et Rob Manfred et son équipe ont une obligation morale de préserver l'intégrité en allant au fond de tout ce qui a été associé aux Astros de Houston, donc les Red Sox. Mais une chose qui est claire, Dan, c'est que Manfred a un petit conflit. Il travaille pour les propriétaires. Il se doit de les rendre riches. Mais d'un autre côté, il se doit de les pénaliser. Il se doit de réglementer ses patrons. Alors, il est un peu coincé entre les deux. Et à date, j'ai pas vu trop de propriétaires d'équipe se plaignent des Astros. J'ai vu des anciens joueurs souligner les faits. Mais les autres propriétaires ont été très silencieux jusqu'à maintenant. Intéressant comme question.
OK. Toi, tu es un expert sport et business. Supposons que l'été prochain, je me retrouve avec mon frère dans une ville, comme on l'a fait cette année au mois de juin, on est allé voir les Cubs et les Brewers. Mettons qu'on se retrouve dans une ville où il y a du baseball. Une ronde de golf, on est en vacances, on est là 3-4 jours. Puis à un moment donné, je propose à mon frère d'aller voir une game de baseball où lui me dit « On va-tu voir du baseball? » C'est impensable, en tout cas, à moins que je change beaucoup dans les prochains mois, Ray, c'est impensable pour moi, à date d'aujourd'hui, de répondre à mon frère « Ah non, non, hey, moi je vois pas voir ça, c'est un sport qui est arrangé, c'est corrompu, les Astros ont triché. » C'est certain que je vais aller voir la game de base, j'aime ça.
Oui.
Donc, voici ma question, ça va être quoi l'impact négatif pour les baseball majeurs en termes marketing?
Ben, c'est une excellente question, comme tu les poses tous, Dan. Je veux te dire que les Américains, les Nord-Américains, surtout les Américains, pardonnent assez rapidement les scandales et les comportements. On a tendance à oublier au niveau des célébrités, pas juste dans le sport, là, mais même tu sais, dans le monde de la musique, du cinéma et les arts. Bon, mais Dieu sait que ça laisse une cicatrice permanente aux yeux de certains puristes. Et je suis pas certain que les jeunes consommateurs d'aujourd'hui, qui déjà, Dan, trouvent que le baseball, c'est long, et c'est un peu lent comme jeu, et c'est pas toujours excitant dans les premières manches, puis il y a toujours des pauses entre chaque lancée.
Oui.
Puis tous les facteurs que le baseball tente de corriger légèrement de façon favorable vis-à-vis une nouvelle génération de jeunes consommateurs. Moi, je suis pas certain qu'eux autres vont pas prendre ça comme étant bon. Ben, regarde, en plus, c'est même pas correct comme mentalité, comme code d'éthique. Alors, oui, il y a des puristes. Tu sais, des gens qui adorent le baseball pour les stades, pour la beauté du jeu. Tu sais, c'est quand même merveilleux de voir un match de baseball. C'est tellement agréable et récréatif en groupe parce que c'est un événement social pas trop stressant. Tu sais, puis tu peux rater quelques manches puis t'as rien raté du match. Mais pour une jeune génération de consommateurs où il y a tellement de compétition, moi, je pense que ça va faire très mal au baseball.
OK. On va s'en reparler évidemment dans les prochaines semaines. Là, c'est comme tu as dit tantôt, c'est loin d'être terminé. Passons maintenant aux Canadiens. Ton collègue d'RDS, Pierre Lebrun, a dit dans les derniers jours, j'ai parlé avec Marc Bergevin, pas question qu'il échange Price et Weber. Pourtant, tous les amateurs, tous les observateurs sont d'accord que les deux vont être trop vieux une fois que le Canadien va être bon, comme nous le promet Marc Bergevin. Est-ce que dans ce cas-ci, en date d'aujourd'hui, de ne pas vouloir échanger Price et Weber, c'est Jeff Molson qui fait passer le marketing de l'équipe avant le désir d'améliorer l'équipe de hockey?
Je suis pas certain que c'est une question de marketing autant que c'est une question de justifier les dépenses encourues pour obtenir Shea Weber, c'est-à-dire échanger Subban,
oui,
et pour signer Price à 10,5 millions.
Okay.
C'est parce qu'à quelque part, tu as une question aussi, là, regarde, quand tu fais un choix, quand tu repêches un joueur de haut niveau, tu veux lui donner toutes les chances de réussir pour aussi prouver que tu es dépisteur puis que toi, comme directeur gérant, tu as fait le travail puis c'était le bon choix. Alors, je pense que c'est plus une question que Price et Weber sont des vétérans dans une équipe de jeunes. Price est le plus ancien des Canadiens. Et c'est le dernier joueur qui était là quand j'étais là, jusqu'en 2011. Ça fait déjà 9 ans et il est encore là. Avec raison. Tu vois, qu'il est encore capable d'excellentes performances. Mais je veux pas rentrer trop dans la spéculation hockey, mais personnellement, c'est juste que je comprends pas trop la direction de l'équipe. On dirait que l'équipe est sur la clôture. Vis-à-vis une reconstruction, ils ont peur de ce mot-là, évidemment, ou vis-à-vis ce qu'on appelait en anglais le « reset », c'est-à-dire oui, on fait juste se réaligner un peu, modeler notre équipe, mais c'est quoi qu'on est? Parce que là, notre plan, de toute façon, ça va être la quatrième année sur cinq que l'équipe ne se qualifiera pas pour les séries. On a Price qui vieillit, coûte très cher, moins attrayant pour d'autres équipes. Weber, ben, il a une excellente saison, mais il ralentit toujours graduellement de jour en jour. C'est pas le même chez Weber qu'avec les Prédateurs. Mais ça veut pas dire qu'on a fait un mauvais échange avec l'échange de Subban. Ça veut juste dire qu'il vieillit, lui aussi, prend de l'âge. Alors, à quelque part, les Canadiens ont un choix à faire. Sacrifie tout de suite pour remplir un peu les paniers de choix au repêchage, puis laisse aller tes vétérans et mets un X sur la saison, ou essaie d'étirer ces gars-là au maximum pendant que les jeunes se développent plus vite. Mais rappelle-toi ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il y a 30 autres équipes dans le hockey qui veulent gagner autant que les Canadiens et font tout ce qui est possible, que ce soit limoger un entraîneur de qualité comme Gérard Gallant avec une fiche gagnante puis deux saisons à succès en pleine saison, parce qu'ils croient que ça va être mieux avec Peter DeBoer. Il n'y a rien pour arrêter les désirs des équipes assoiffées de victoire.
OK. Je parlais avec un chum qui est propriétaire d'un bar sportif à Québec, puis je disais, ouais, les Canadiens vont manquer série quatrième fois en cinq ans, comme tu viens de le dire, Ray. Je disais, Caroline, ça va faire mal pour avril. Le mois d'avril va être moins hot que peut-être d'autres années où ils ont fait les séries. Il dit non, il dit, c'est pas le mois d'avril comme tel qui fait mal. Il dit, c'est au moment où l'équipe est officiellement éliminée, sans dire mathématiquement, c'est au moment où tout le monde abandonne et arrête de suivre le hockey, là, ça commence à faire mal. C'est le constat que tu fais comme expert marketing?
Oui, et je pense que on le voit là graduellement, l'érosion, le désintéressement. Lundi soir contre Calgary, il y avait beaucoup, beaucoup de sièges vides. Et Dan, tu sais que plusieurs de ces sièges-là ont été vendus, mais les gens ne se présentent pas au match. C'est-à-dire qu'on, si tu me permets, là, on mange nos billets. On a payé 200, 250, 300 $ et on a choisi de rester à la maison.
Ou on essaie de les donner puis personne ne les veut.
Et voilà. Alors ça, c'est un triste dénouement, une conclusion un peu désespérée là, qu'on est en la mi-janvier et le club ne donne pas d'espoir. Un excellent match hier soir, mais un très mauvais match mercredi. Alors, on est irrégulier, on est imprévisible. Les partisans veulent s'appuyer sur quelque chose. Je pense que l'an dernier, là, l'équipe était au moins plus constante. Même si elle a raté les séries, c'était agréable, c'est une surprise. Elle a terminé à un point, si ma mémoire est bonne. Mais là, cette année, deux séries de 8 défaites. peu importe le dénouement de scénario là, dans certains de ces matchs-là où le Canadien a bien joué, c'est dur pour les partisans, encore une fois, puis de plus en plus, il y a une irritation. Il y a comme un, on lance la serviette et on s'éloigne et on trouve autre chose qui est le défi pour tout le monde. On a toujours autre chose de mieux qu'on peut faire que d'aller au Centre Bell, ben, encourager une équipe qui nous donne pas ce qu'on espérait avoir.
OK. La saga des Alouettes, a connu un dénouement dans les derniers jours. Des Ontariens qui sont venus acheter les Alouettes de Montréal, on a confié à Mario Cecchini et à Danny Machocha, l'ancien des Carabins, de relancer l'équipe comme président et comme DG. C'est quoi leur défi maintenant, Ray?
Le plus gros défi, je pense, c'est le défi commercial. Parce que l'équipe était quand même performante l'an dernier. En tout cas, il y a eu 3-4 matchs avec des revirements là, puis des remontées spectaculaires là, qui ont donné à tous les gens là, l'envie de suivre l'équipe. Mais le défi commercial d'une équipe comme les Alouettes, c'est-à-dire la connexion, pas avec le fan, mais avec les corporations, les entités commerciales, les partenaires marketing, qui, eux, doivent signer dans des chèques de 500 000, 600 000, 700 000 pour commanditer, là, m'a dire ça, c'est pas facile à convaincre. Parce que ça veut dire qu'une entreprise doit croire que les Alouettes, non seulement ont tourné la page, puis il y a un nouveau chapitre qui va s'écrire, mais que les Alouettes en valent la peine. Que les Alouettes vont attirer l'intérêt de tous et, si on veut, augmenter le trafic dans leur industrie, dans leur business, suite à l'association avec la marque des Alouettes. Ça, ça prend quelques années. Fait que Danny Machocha, comme directeur gérant, ben, écoute, si le carrière Vernon Adams joue comme il a joué l'an dernier, puis les Alouettes réussissent à être compétitifs, ben, son travail à lui, en tout cas, va être beaucoup plus rapide. Mais le travail de Mario Cecchini, de connecter les entreprises québécoises à cette équipe-là dans un marché ultra concurrentiel avec une équipe de soccer qui s'appelle l'Impact qui souffre de plusieurs des mêmes défis, mais qui a plus des plus gros budgets, ben c'est pas facile. Le Québec est particulier comme marché, le Québec entier, là, c'est-à-dire que on est sensible au succès, on est attiré par la victoire, on est déçu des performances de nos équipes depuis quelques années, et on est aussi un petit peu proche de nos poches. Fait qu'on fait attention à ce qu'on dépense comme dollars loisirs. Et on est partout, on est comme partout sur la planète, Dan. On a accès à tout de toute façon sur le numérique. Alors, on n'a pas besoin nécessairement. Tu me dis souvent, là, William est allé voir des matchs à la NFL. Toi, tu étais aux États-Unis, au golf, au baseball et tous les sports. On est des consommateurs de produits de qualité. Puis si nos équipes ne nous l'offrent pas, on va le trouver ailleurs.
Exact. Dernière question que j'ai pour toi. La retraite cette semaine annoncée pour Luke Kuechly des Panthers de la Caroline. 28 ans seulement. De plus en plus de joueurs quittent tôt la NFL. C'est une mauvaise nouvelle pour le produit de la NFL?
Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, OK.
Ouais, parce que moi, je pense que la mentalité là, de gladiateur, là, de warrior qu'on appelle, là, c'est en train de s'atténuer.
OK.
Et je pense que la NFL va en profiter de deux façons. Premièrement, il va y avoir plus de jeunes joueurs qui vont arriver parce qu'il y a plus d'opportunités, de positions et de jobs qui vont se libérer parce que les joueurs vont jouer moins longtemps. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça démontre qu'il y a un certain niveau d'expérience puis de maturité qui est en train de prendre place dans la NFL où les joueurs gagnent bien leur vie plus tôt, planifient leur avenir plus tôt, sont capables de se retirer en meilleure santé. Ils n'auront pas besoin de sortir du terrain en chaise roulante, parce qu'ils auront été handicapés par leur sport, parce qu'ils auront été battus physiquement et dans 10 ans, 20 ans, ne pourront plus avoir une qualité de vie acceptable.
Okay.
Ça, c'était une triste conclusion des années 70 et 80 et 90. Alors là, les gars comme Luke Kuechly, Oliver Luck, jusqu'à des Barry Sanders, mais ces gars-là ont choisi Calvin Johnson, le receveur de passe des Lions. Ces gars-là ont choisi de se retirer plus tôt pendant qu'ils avaient encore pleine possession de leurs moyens. Et parce qu'ils ont peut-être l'opportunité de passer à la deuxième phase de leur vie d'affaires, devenir des investisseurs, des hommes d'affaires, des producteurs, avoir une carrière après le terrain.
Exact.
Et ça, faut les féliciter pour ça. Alors, c'est une excellente nouvelle et je pense que c'est triste pour les joueurs parce que tu le sais, les joueurs de football ont une caractéristique, c'est le sport ultime d'équipe. Et deuxièmement, il y a un amour éternel pour le football. J'ai joué au football, ça m'a fait tellement de peine d'arrêter de jouer moi-même, puis j'avais pas le talent de ces gars-là, là. Mais je sais comment c'était dur pour lui de l'admettre, de quitter, prendre sa retraite. Mais dans quelques mois et dans quelques années surtout, il va pouvoir vivre une belle vie en pleine santé et avoir d'autres opportunités s'il a bien investi son argent.
Fort intéressant. Gros merci, Ray. Bon week-end à toi.
Salut, Dan. Bon week-end à tout le monde.
Salut bien. Ray Lalonde, expert sport et business, à qui on parle ou à qui on va parler chaque semaine dans l'avant-match.
Avant chaque match, à Québec, on écoute Dan Pou. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Question dans la catégorie relooking de meubles en bois. Qui est le chef de file dans
Décaparancé?
Ben, pas juste, mon bassin marche pas.
J'essaye pas.
Il redonne vie à vos armoires de cuisine et meubles en bois.
Pour bien moins cher que de tout changer, c'est Décaparancé.
De qui parle-t-on? Grâce à un équipement spécialisé et une équipe de professionnels, ils peuvent teindre, vernir ou laquer dans la couleur exacte que vous voulez.
Décaparancé.
Complétez la phrase. Toute la valeur conservée.
Toute la beauté retrouvée.
Eh bien, c'est l'égalité! Il ne me reste plus qu'à vous dire, pour une soumission en ligne, visitez décapeur.com.
Vous ne savez pas quoi manger ce soir? Offrez-vous une bonne pizza Resto Pids, disponible dans vos supermarchés IGA, Metro, Provigo, Walmart et Super C. Recherchez la boîte rouge Resto Pids.
La conduite hivernale vient avec son lot de surprises. Pas toujours évident de faire face à toutes les intempéries. Chez Volvo de Québec, on le sait. Équipé de dispositifs de sécurité de série comme le système de suivi de voie et la traction intégrale intelligente, les Volvo prouvent qu'au volant d'une voiture bien conçue, on peut rouler dans toutes les conditions. Et actuellement, chez Volvo de Québec, le XC90 est en location à partir de 2,9%. Détail chez Volvo de Québec. VolvoDeQuébec.com.
Vous êtes presbyte ou vous avez des cataractes? Voyez vos options grâce à la chirurgie par lentille intraoculaire offerte à l'Institut privé de chirurgie. Prochaine soirée d'information gratuite, le 29 janvier. Offrez-vous la liberté sans lunettes. Institut privé de chirurgie.com.
400 km² de chasse et de pêche près de Québec. Le secteur Tourilly. Un paradis naturel pour chasseurs et pêcheurs et les voyages en famille. Réservé pour la prochaine saison, pour une journée, un séjour en camping ou en chalet.
Visitez tourilly-avec-deux-l.com.
Quel plaisir de vous rappeler que la vente de millions d'ameublement Tanguay est en cours. C'est le moment de vous gâter et de courir la chance de devenir notre prochain millionnaire. De la collection Tanguay Matelas Yamaska, format double à ressort en sachet et dessus coussiné, 699 $ en rabais de 100 $. Nous payons les deux taxes et payez jusqu'à 50 versements sur les matelas. Livraison gratuite au Québec. Détail en magasin et sur tanguay.ca. Le million Tanguay, le million le plus facile à gagner.
Vous avez besoin de pièces pour votre voiture? Pièces d'auto économique vous offre toutes les grandes marques nationales au meilleur prix. Pourquoi payer trop cher ailleurs? Pièces d'auto économique, c'est maintenant 5 magasins, dont un tout nouveau à Saint-Georges et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Raymond Chabot est fier de présenter le retour des fameux abats de Gilles.
Allez!
Guérir du surendettement, ça fait du bien à la vie sociale. Prenez rendez-vous avec l'un des conseillers Raymond Chabot, syndic autorisé en insolvabilité.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a de la neige et une bordée de wow! Réservez votre séjour en raquette au saguenay-lac-saint-jean.ca.
Aujourd'hui, tu vas à plusieurs endroits, mais tu ne sais pas encore comment t'y rendre. Le Lyft est la solution. Tu peux voir les taxis agréés dans les environs et tes autres options de transport. Toutes les compagnies de taxis, l'autobus et le métro. Vérifie les horaires et les prix et choisis ton transport. Et reste en contact avec le chauffeur. C'est l'art de se déplacer. Grâce au pouvoir du choix, le tout en une appli. Le Lyft est ici. L'appli pour les déplacements au Canada en association avec Éducalcool.
Grande première au Manège militaire Voltigeur de Québec. Le salon du mariage et robes de bal les 18 et 19 janvier. Voyez les incontournables défilés des mariés et des robes de bal au Manège militaire les 18 et 19 janvier. C'est plus qu'un salon. Collaboration FM 93 et Mégaphone.
Le 24 janvier au Capitole, voyez l'ultime célébration de KISS, le spectacle Orchestra. Sur scène, le groupe KISS et le Big Ben Orchestra de 12 musiciens. Orchestra le 24 janvier. Billets, lecapitole.com. Collaboration FM 93.
Le sport commence par l'avant-match avec Dan Pou en semaine 18h. FM 93.
Merci aux auditeurs. C'était Nick hier qui me parlait à quel point il aimait entendre Éric Lavigne. Et aujourd'hui, c'est Jack qui m'envoie un texto pour me dire « Ray Lalonde, toujours intéressant. » Très content de pouvoir l'entendre chaque semaine sur les ondes du FM 93 pour l'avant-match. Donc, merci à vous pour l'interaction. Content de vous savoir à l'écoute. Alexander Ovechkin, est-ce que vous le trouvez bon, excellent, moyen, pitoyable? Vous aimez pas sa barbe? Il a l'air d'un gars de 50 ans, d'un corps de 34. C'est quoi votre appréciation d'Alexander Ovechkin? Savez-vous c'est quoi le gros problème d'Ovechkin? C'est qu'il est arrivé dans la Ligue nationale en même temps que Sidney Crosby. Et Sidney Crosby, c'était le gendre rêvé de toutes les belles-mères. Alexander Ovechkin, c'était le gars qui avait une visière teintée. C'était le gars qui manquait 2, 3, 4 dents des fois. Dans ses pires semaines, c'était 4 dents, sinon c'était 2 dents. C'est le gars qui, on avait l'impression, avait beaucoup plus hâte d'aller jouer avec la Russie au championnat du monde que d'aider les Capitals à performer en série jusqu'au moment où, il y a 2 ans, ils ont gagné la Coupe Stanley. On a arrêté de dire ça. Sachez qu'Alexander Ovechkin, hier, a marqué 3 buts. Il est rendu à 31. Et il devient donc le 2e joueur de l'histoire à amorcer sa carrière avec 15 saisons de suite de 8 buts. Ben non, c'est pas vrai. 15 saisons de suite de 16 buts. Non, c'est pas vrai non plus. OK, 15 saisons de suite où il a marqué 21 buts et plus. Non. 15 saisons de suite de 30 buts ou plus. Pas 3 saisons. 15 saisons et il a réussi ça hier. L'autre joueur qui a réussi ça, c'est Mike Gardner. Mike Gardner est également un ancien des Capitals de Washington. Jaromir Jagr a réussi 15 saisons de suite de 30 buts ou plus, mais pas au début de sa carrière. La première année, il en a fait juste 27. Donc, il n'est pas dans le stats. Mais Jagr a eu une saison phénoménale. Il est 2e en termes de points dans l'histoire de la Ligue derrière Gretzky. Je reviens à Ovechkin, 15 saisons de suite avec 30 buts ou plus, c'est phénoménal, c'est extraordinaire, et je trouve qu'on est encore trop sévère envers Ovechkin, c'est tout un joueur de hockey, et il est rendu à 689 buts. Et moi, je fais partie du faible pourcentage des amateurs de hockey qui croient qu'il peut se rendre à 894 buts, le nombre de buts marqués par Wayne Gretzky. J'espère qu'il va jouer assez longtemps pour ça, je sais que son contrat vient à échéance, il va falloir qu'il en signe un autre, mais juste qu'on en parle de la possibilité de battre un record d'un gars qui a joué à une époque où ça se terminait plus souvent 7-5 que 3-2, maintenant pour Ovechkin, ça vous démontre à quel point Ovechkin a un talent incomparable pour marquer des buts à tout le moins. C'est tout mon avant-match de ce soir. Passez donc une belle fin de semaine.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93, ça me parle.